19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. On est vendredi et quasi vendredi. Eh bien, nous passons ce dernier jour de la semaine tranquillement. Nous allons parler de la situation, vous le savez plus que jamais, de la guerre en Ukraine qui prend de l'ampleur, mesdames et messieurs. La situation qui prend une autre tournure, évidemment. Ne croyez pas que cela, évidemment, ça risque de durer. On est ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité avec des débatteurs, des influenceurs qui seront avec nous le face-à-face tout à l'heure. Ensuite, nous aurons aussi également deux invités avec nous. Le premier, il s'appelle donc Youssef Medjoud, qui sera avec nous, les chefs d'entreprise, mais aussi soutien de Valérie Pécresse. Mais également aussi un autre invité, il est maire adjoint sur la ville de Marseille. Il est politique, donc un acteur politique local, mais également aussi ingénieur dans la vie. Ali Yatsou qui sera avec nous dans une poignée de minutes pour parler d'un événement qui se déroule ce dimanche. Politique, bien sûr. Les trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, la situation. La Russie, sachez-le, ça y est, elle a décidé évidemment d'encercler Kiev est encerclé totalement, la carte de l'avancée russe. On en parlera tout à l'heure, mais surtout ce qu'on veut savoir, c'est aujourd'hui, que peut faire l'Europe, que peut faire l'Occident? Est-ce qu'ils ne sont pas désarmés face à une situation qui les dépasse totalement? Eh bien, on en parlera et on tâchera de vous apporter un éclairage. Autre sujet, c'est le sujet Fillon, évidemment, et sa proximité avec le pouvoir russe, mais surtout avec Poutine. Fillon qui a fait une déclaration qui a fait polémique, alors on parle d'un Fillon complice de Poutine, et désormais la question se pose aujourd'hui, doit-il démissionner de ses affaires avec la Russie? Autre sujet également, ce sera le dernier hein, qui a retenu notre attention. Je vous ai tout dit. L'autre sujet, c'est évidemment, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert plus que jamais pour vous durant une heure. Oui, et vous venez, comme vous le faites si bien d'ailleurs, commenter l'actualité. Mais en plus, je dois vous dire, on a eu les chiffres, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, merci à vous. Ça fait plaisir. On reçoit beaucoup de messages et c'est très bien. C'est une très bonne chose. Voilà. Je vous attends et 19h30, c'est le Quoi de Neuf avec Michel Taube qui viendra nous livrer son billet d'humeur justement sur Poutine et notre élection présidentielle. Quelle proximité et quel lien. 19h03, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, mais surtout en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec deux personnalités, deux messieurs qui sont avec nous à l'antenne, justement, pour parler d'un événement qui se déroule ce dimanche, avec Youssef Medjoud. Youssef, bonjour, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes également, vous êtes membre du comité de soutien citoyen de Valérie Pécresse. Bonsoir Youssef.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, Une petite pensée donc pour les Ukrainiens d'abord, pour le peuple ukrainien.
Oui.
Avec ce qui vit, voilà. Donc,
exact.
Même si on continue un petit peu notre quotidien ici en France.
C'est pas facile, hein.
Il doit vivre des moments difficiles.
Des moments voilà. Extrêmement douloureux.
Absolument.
Donc, Youssef, vous êtes évidemment accompagné d'un maire adjoint. Maire adjoint sur la ville de Marseille, il s'appelle Ali Yatsou. Bonsoir Ali Yatsou, bonsoir monsieur le maire adjoint.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, messieurs. Vous êtes ici ensemble pour nous parler, vous deux, d'un événement qui se déroule ce dimanche.
Alors, c'est le dimanche prochain, c'est dimanche 6 mars. Hein,
le dimanche 6 mars, vous avez raison de le souligner, c'est pas ce dimanche, voilà. C'est le 6 mars là, prochain, c'est dans une semaine. Alors, vous avez décidé, vous, de provoquer un événement, vous l'avez organisé, un événement autour des chefs d'entreprise. Est-ce que, évidemment, vous pouvez nous en parler et nous dire précisément de quoi s'agit-il? Une réunion, c'est quoi? C'est une réunion d'entrepreneurs, finalement?
Absolument, en fait, c'est une réunion. En fait.
Ça, c'est Youssef hein, qui parle, Youssef.
Oui, Youssef. Oui.
Voilà. On vous écoute.
Voilà, donc en fait, c'est une réunion, effectivement, au QG de campagne de Valérie Pécresse. Et nous invitons un certain nombre de chefs d'entreprise, quelques dizaines, qui viennent pour débattre. Et parallèlement, puisque ce sont la plupart des franco-berbères, des chefs d'entreprise, donc artisans, commerçants, franco-berbères. Mmh. Et par ailleurs, nous avons aussi l'aspect culturel, puisque la culture berbère, en fait, nous faisons aussi la promotion de la culture berbère.
Oui.
Étant entendu que nous ne sommes pas communautaristes et que nous ne reconnaissons qu'une seule communauté, c'est la communauté de destin de l'ensemble des citoyens français.
Oui.
Cette partie-là, donc il y aura un petit mot quand même sur l'aspect culturel qui est important, sur lequel, entre parenthèses, nous sommes très attachés, enfin en tout cas à cette culture berbère qu'elle puisse, puisqu'elle est. Je pense que je vais laisser à Ali en parler parce que c'est plus sa partie.
Et le maire adjoint justement de Marseille, alors Ali Yatsou, justement. Voilà. Alors concernant cet événement, pourquoi vous avez fait le choix justement de réunir des entrepreneurs qui viennent d'ailleurs d'où d'ailleurs, de toute la France ou simplement de la région de Marseille, pour que je puisse comprendre autour de cette réunion, c'est quoi? C'est un comité de soutien pour Valérie Pécresse? C'est pour l'accompagner? Ce comité de soutien, vous avez parlé évidemment de personnalités berbères, mais pourquoi ce choix,
Ali?
Est-ce que j'essaie de parler. Bon, je ne capte pas très bien malheureusement.
Oui.
Je vais essayer de parler un peu. Donc effectivement, cet événement, c'est dans le cadre de l'élection présidentielle, et nous avons voulu rencontrer donc Valérie Pécresse avec des entrepreneurs. Comme on le dit souvent, les Berbères de France sont très attachés à leur culture, mais ils sont aussi des citoyens comme tout le monde, et ils s'intéressent à ce qui va changer leur vie quotidienne. Et notamment, l'aspect économique est important. Donc c'est une rencontre qui vise à réunir des entrepreneurs franco-berbères et leurs amis, puisque ce n'est pas, évidemment pas fermé uniquement aux franco-berbères, et de discuter, d'échanger sur le programme de Valérie Pécresse, ce qu'elle propose pour ses entrepreneurs et ses commerçants.
L'enjeu de cette réunion avec les franco-berbères, comme vous dites, est-ce qu'il d'abord il y a un enjeu, et quel est cet enjeu justement que vous attendez face à Valérie Pécresse?
L'enjeu, c'est d'échanger sur les aspects du programme, c'est-à-dire qu'elle nous explique ce qu'elle prévoit de réformer dans le domaine économique, et puis d'initier donc cet échange avec ceux qui viendront, puisque l'idée c'est de faire un débat, que les personnes qui viennent puissent poser des questions et comprendre ce qui les attend si Valérie Pécresse est élue.
C'est élu. Justement, vous voulez peser, vous le faites avec tous les candidats, ou vous le faites particulièrement avec Valérie Pécresse, parce que vous-même vous êtes soutien de Valérie Pécresse?
Alors, il y aura donc plusieurs rencontres qui ne seront pas dans ce cadre-là. Cette réunion-là était typiquement dédiée à l'économie, mais pour parler plus généralement de la communauté franco-berbère, l'idée c'est évidemment de mettre un coup de projecteur sur la communauté et rappeler combien elle est importante et combien elle est intégrée, combien elle apporte à la France. À travers, vous le savez, hein, nous sommes des plusieurs millions, et qui sont là depuis plus d'un siècle, et qui sommes surtout des citoyens attachés à la République, aux valeurs de la République, et qui voulons que la culture berbère puisse exister en France, comme beaucoup d'autres cultures.
Dites-moi,
donc, évidemment, nous, oui.
Youssef Mejdoud, c'est un peu la même réponse. Est-ce que vous attendez quelque chose, évidemment, de cet enjeu et de la rencontre avec Valérie Pécresse? Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut changer quelque chose?
Bah écoutez, nous, on a quand même un petit peu de contact avec son entourage direct avec qui on travaille, notamment un intervenant berbère qui est Pierre Danon, qui est en charge, en fait, de tout ce qui est société civile auprès de Valérie Pécresse. En fait, concernant, si vous voulez, la partie économique, la partie entreprise, il est clair que nous avons un souci aujourd'hui de pouvoir avoir des moyens, en fait, pour pérenniser un peu la culture berbère qui est présente ici depuis plus d'un siècle en France. Mais pour ce faire, il faut absolument que le gouvernement, en tout cas le pays, ait des marges de manœuvre budgétaires. Et le programme économique, en fait, de Valérie Pécresse, il nous intéresse, en tout cas nous en tant qu'entrepreneurs et en tant qu'acteurs économiques de ce pays,
oui.
Notamment tout ce qui concerne la valorisation du travail,
oui.
C'est-à-dire retrouver un peu le niveau de travail que de la moyenne européenne, puisque nous, on est très, très en deçà en ce qui concerne la France, la compétitivité effectivement des entreprises et la volonté réelle de réindustrialiser la France. Voilà. Donc c'est les points importants sur lesquels on va discuter effectivement avec Valérie Pécresse. Et ces points-là nous apparaissent importants parce que l'avenir du pays, l'avenir pour nos enfants, je ne vais pas parler de la dette parce que tout le monde en parle, mais la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain pour nos enfants. Mmh. Donc c'est important pour nous de pouvoir s'assurer que le prochain gouvernement de ce pays remette un petit peu d'aplomb les comptes. En tout cas que l'économie française puisse repartir. Alors il y a un contexte international là qui bouleverse un petit peu les choses, mais a fortiori, c'est-à-dire que si effectivement on ne fait pas les réformes, on ne pourra pas demain quelque part vivre dans un pays démocratique où les valeurs de la République sont une évidence, mais disons que la santé économique d'un pays est importante aujourd'hui, ne serait-ce qu'aussi pour, je dirais, la paix sociale. Et puis, nous, ce qu'on veut pas, c'est les facteurs de division qui sont actuellement...
Dites-moi, messieurs, à vous deux, l'événement se déroule le 6, ça se passe où? C'est en région parisienne, c'est où précisément?
C'est dans le 17e, donc l'adresse, je vais vous la donner, parce que si effectivement certains de vos auditeurs veulent venir débattre, ils sont les bienvenus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous envoyer peut-être un petit mail avec l'adresse.
Donnez-nous l'adresse, on va la noter. Donnez-nous l'adresse et le lieu, justement, pour que nos auditeurs qui sont intéressés, justement...
Alors, là.
On vous écoute, messieurs.
Non, vas-y, Ali, tu peux parler.
Ah oui, alors l'adresse mail, c'est berberdefrance@gmail.com.
Et le lieu de l'événement pour le 6 prochain, le 6 mars prochain?
Alors, attendez, parce que...
Vous ne connaissez pas le lieu?
Non, l'adresse...
Là, je rigole. L'adresse précisément.
C'est rue... Attendez.
Qu'est-ce que vous avez envie de livrer en attendant l'adresse? Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message? Ali Yatsou et Youssef Mejdoud.
Moi, j'ai envie
à celles et ceux qui vous écoutent.
J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'enjeu de la présidentielle, il est extrêmement important. Et que, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une montée très forte de l'extrême droite. Et pour nous, c'est dramatique. Parce que notre communauté, en particulier, a été souvent victime et visée par les extrémistes.
Oui. On vous a perdu. Monsieur le maire adjoint, on vous a perdu. Je pense que vous captez très mal.
Est-ce que vous m'avez récupéré?
Oui, on vous a récupéré.
Alors, je disais donc que le danger de l'extrême droite, il est là. On le voit et c'est très important de pouvoir s'engager pour dire qu'il y a toujours une voie républicaine sur laquelle on peut s'engager en dehors des extrêmes parce que on sait très bien à quoi ça mène. Donc aujourd'hui, effectivement, pour nombre d'entre nous, Valérie Pécresse apparaît comme une alternative très crédible au pouvoir du président de la République. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle concentre beaucoup d'attaques en ce moment. Et ce débat-là doit avoir lieu. Et donc on invite, bien sûr, tous nos concitoyens à s'intéresser à ce débat, à y prendre part.
Alors, est-ce que vous avez retrouvé l'adresse? Dites-nous l'adresse, oui, parce que je dois rendre l'antenne. L'adresse, donc, pour le 6 mars prochain, s'il vous plaît.
8 rue Torricelli, dans le 17e à Paris.
dans le 17e. Merci infiniment.
Torricelli.
Donc Paris 17e, l'événement à ne pas manquer, donc on l'aura noté. Ça se passe le 6 mars prochain avec donc une rencontre que vous avez organisée vous-même, Ali Yetsou, donc maire adjoint de la ville de Marseille, mais également aussi chef d'entreprise Youssef Mejdoud, pardon, qui est également le comité de soutien de Valérie Pécresse. Il vous donne rendez-vous donc le 6 mars prochain à ne pas manquer avec tous les franco-berbères, justement, chefs d'entreprise, tous celles et ceux, et c'est ouvert aussi aux autres, évidemment, pour celles et ceux qui sont intéressés par la campagne et l'échange avec Valérie Pécresse. Merci, messieurs, à très bientôt.
Merci.
Merci, 19h16, je suis en retard, il faut que je lance vite la pub, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face, c'est parti, jingle.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face, vous le savez, et puis surtout, dit autre jingle, c'est vous aussi, priorité jusqu'à 20h, pour venir commenter l'actualité. Messieurs, un seul numéro, écoutez.
48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Il y a la moitié qui a été mangée, je crois. 48 3000. Non, on va recommencer. Il y a
53 48 ah. 3000.
Et encore un autre morceau qui a été mangé.
Les
pris,
informés
hein.
vous donnent la parole.
01, on a oublié le 01 53 48 3000. C'est Yanis, on va lui offrir un café, Yanis. On va lui offrir un café. 19h22, bonjour Mehdi Jaziri, comment
bonjour
ça va?
Bonjour Adil, comment
jeune
ça va?
Jeune journaliste, mais également aussi étudiant avec ses doléances, il rencontre.
Voilà, je rencontre un peu tous les conduits de... Voilà.
Absolument.
On va bientôt voir Jadot d'ailleurs. Gros bisous à lui.
Jadot, ça, ouais, ça va.
Voilà. Oui, il est sympa.
Face à Mehdi Jaziri, eh bien, Amine Chriel, ça faisait longtemps,
Amine Chriel. Désolé pour le retard, oui.
Éditorialiste, comment ça va?
Toujours bien.
Tout se passe bien?
Tout se passe bien, merci.
Bon, bah écoutez,
on suit vos émissions, les relais, voilà.
Bah écoutez, merci infiniment, c'est très gentil.
Fait partie de l'équipe.
Alors, la guerre en Ukraine, messieurs. L'Ukraine qui s'inquiète de la situation, évidemment, ça y est, qui est tombée aux mains des Russes. Hein. Elle est entre les mains des Russes, et tombée aux mains des Russes, comme on dit. Désormais, la situation est alarmante, puisque de nombreux spécialistes disent que l'invasion de l'Ukraine, eh bien, la Russie et le président, qui est actuel, donc le président ukrainien, messieurs, j'ai envie de vous poser cette première question qui est dans l'esprit de tout le monde. Est-ce que la situation risque de s'empirer, mais surtout, est-ce que ça craint désormais, maintenant que c'est entre les mains des Russes?
Moi, je pense que c'est quand même une situation à prendre avec beaucoup de gants. On a vu quand même pas mal de choses sur les réseaux sociaux. On connaît aussi les gens qui aiment bien extrapoler certaines choses. Moi, je pense que la situation va certainement s'aggraver parce que je crois que la dernière nouvelle, Kiev est en train de résister encore jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas. La situation va forcément s'aggraver. Les Russes ne vont pas lâcher ça comme ça. Mais de là à dire qu'on aura certainement une troisième guerre mondiale, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut quand même prendre ses gants. Je pense qu'il faut être solidaire du peuple ukrainien.
Il y a des manifs depuis 2 jours.
Voilà, il faut des manifestations. Je pense qu'il faut, au lieu d'aller envoyer des militaires comme certains le disent, je pense qu'il faut aller envoyer surtout de la nourriture, des aides, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Je pense qu'il faut être solidaire de cette manière-là. Après, voilà, de là à dire qu'il faudrait aussi envoyer des militaires de l'OTAN, faut vraiment méditer là-dessus parce que il y a certes de gros risques, mais la guerre n'est pas encore signée. Troisième guerre mondiale, je veux dire, n'est pas encore signée parce que faut savoir un truc, c'est que troisième guerre mondiale égale guerre totale, donc guerre total, c'est guerre nucléaire. Guerre nucléaire, c'est potentiellement la fin de notre civilisation. Donc il faut prendre ça avec des gants. Et les mots que je suis en train d'employer quand je parle de fin de la civilisation, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de Vladimir Poutine, un jour sur RT, qui avait dit ça.
Quelle année ?
En 2018, 2017, je ne sais plus. Oui. Il avait dit ça. Et sincèrement, voilà, je pense qu'il faut prendre la chose avec des gants. Il faut être solidaire du peuple. Il faut aider le peuple. Mais de là à prendre des décisions comme ça, franchement, voilà. Et en plus, les Américains sont très drôle en train de nous casser du sucre sur la Russie, en train de dire oui ceci cela. En vérité, ils ne font rien, ils sont tranquillous sur leur continent, ils vont attendre que ça parte en cacahuète comme ils l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la fin venir comme des sauveurs, les Américains, c'est ça, voilà.
Est-ce que vous partagez cela? Est-ce que vous êtes inquiets, mesdames et messieurs les auditeurs? 01 53 48 3000, le standard est ouvert, je vous attends partout en France. Est-ce que la situation, la guerre en Ukraine vous inquiète? Amit Chriet, tiens, quelle analyse vous avez et que vous portez justement sur la situation en Ukraine aujourd'hui avec cette guerre qui évidemment, par exemple, le secrétaire général de l'OTAN, il dit que la Russie le paiera.
Écoutez, d'abord, il faut replacer le contexte de cette. Le Donbass est sous haute tension, les mouvements séparatistes depuis 2014. Depuis 2014, il y a des négociations qui sont. Des négociations diplomatiques qui ont été discutées avec la Russie. Malheureusement, l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas réussi, je veux dire, diplomatiquement à avoir des pourparlers. C'était, en tout cas, c'est un échec de la diplomatie aujourd'hui. Et quand il y a un échec de la diplomatie, c'est la force qui prend le relais. On voit bien aujourd'hui que la Russie n'a pas le réalité de choix, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que l'OTAN, ça c'est le contexte géopolitique, on sait très bien aujourd'hui que l'OTAN et que l'Ukraine effectivement souhaitent être membres de l'OTAN, et donc il en va des intérêts géostratégiques de la Russie.
Longtemps, d'ailleurs.
Bon, ça, je voulais, en guise d'introduction, expliquer le contexte géopolitique. Maintenant, effectivement, l'intervention russe est une intervention inacceptable au regard du droit international et des accords Minsk. La Russie, aujourd'hui, a violé ces accords-là de façon unilatérale, même si la Russie et l'état-major russe et les services de renseignement avaient déjà préparé les scénarios. Souvenons-nous que les renseignements américains avaient effectivement alerté l'opinion internationale, mais souvenons-nous aussi des manigances et des sous la guerre de l'Irak. Moi, je n'ai pas entendu M. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été reçu par Emmanuel Macron, dire ou appeler à la voix de la diplomatie lorsqu'il y a eu l'intervention d'Ali Bi. Je n'ai pas entendu M. Nicolas Sarkozy parler de la voix de la diplomatie lorsqu'il y a eu de l'intervention en Côte d'Ivoire. Même chose pour François Hollande lorsqu'il y a eu l'intervention au Mali. Donc, je veux bien effectivement que la communauté internationale s'émeuve de ce qui se passe aujourd'hui à Kiev, et c'est à condamner, mais je veux bien aussi qu'on pense aussi aux morts irakiens, qu'on pense aux morts.
Il y a une question aussi que beaucoup se posent. C'est-à-dire, est-ce que finalement,
lorsqu'il s'agit de l'Occident, j'ai l'impression qu'un mort qui vient en Occident,
c'est l'impunité.
Vaut 100 en Afrique ou au Mali.
Finalement, donc, la question que je pose, c'est finalement, a-t-il eu raison, évidemment, d'intervenir militairement Vladimir Poutine?
Écoutez, je crois que c'est une erreur stratégique. Si vous me demandez à moi, je pense que c'est une erreur géostratégique, Vladimir Poutine. Il aurait dû peut-être attendre. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas aujourd'hui d'interlocuteur crédible. Oui. Excusez-moi, le président de la République, et vous avez vu vous-même, lorsqu'on a bien vu ce scénario-là, avec la grande table de distanciation, Emmanuel Macron qui vient menacer Vladimir Poutine, quand on négocie en diplomatie, voilà, on ne menace pas les gens. On est diplomate, on propose un accord.
Qui vous a dit qu'il l'a menacé?
C'est
bon, et puis en même temps, et pour appuyer ce qu'il dit, il a la botte des Américains.
Et des personnes, effectivement, bonbons et des experts. Quand on voit l'attitude d'Emmanuel Macron, excusez-moi, le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, c'est un banquier. Ce n'est pas un. Il n'a pas d'expérience. Il est jeune. Je suis désolé de vous dire. Il est chef d'État, mais il est jeune. Il doit encore apprendre la diplomatie.
Ça, c'est votre point de vue. Je vous laisse le livrer, effectivement.
C'est pas le mien. C'est madame Michel Alliot-Marie aujourd'hui qui a parlé sur ça aussi sur BFM TV en disant que, à l'époque de Chirac, il y avait un autre Vladimir Poutine. Donc il va falloir aussi à un moment donné se remettre en question. Voilà.
Oui. Et c'est vrai que et puis il faut dire aussi ce qui est, c'est que il est venu menacer Vladimir Poutine en Russie aussi parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a la botte des Américains. Excusez-moi, la France aujourd'hui, c'est un pion pour les États-Unis. Voilà, même l'Europe en général, ce sont des pions. Ce sont des pauvres gens qui disent oui à tout ce que M. Biden va dire. C'est clairement ça. Donc en fait, moi j'ai toujours marqué quelque chose, et c'est pour appuyer aussi ce que vous dites, ce qui est totalement vrai, c'est que outre même l'Occident, si on regarde au Yémen, en Irak, en Syrie, dans tous les autres pays, c'est une représentation de la guerre froide qu'il y a à chaque fois. Il y a toujours soit un Américain, soit un Russe dans l'histoire. C'est toujours la même chose. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui en prend plein pour son grade. Donc oui, certainement, Vladimir Poutine a peut-être fait une erreur stratégique en allant là-bas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Américains, l'OTAN n'a pas aidé, voilà, depuis des années. Donc
et en dernière instance, ce sont les peuples qui payent.
Voilà.
Les décisions des gouvernements.
50 000 personnes ont fui.
Moi, je vous le dis clairement. Lorsque le président de la République déclare qu'effectivement nous sommes en guerre ou je ne sais pas quoi, vous savez, pendant le Covid, il a mal géré la situation. Protéger les Français, moi, j'ai pas envie qu'ils me protègent. Merci.
Mais
moi-même, je suis assez.
Et ce qu'il faut dire, c'est que
la gestion de ce gouvernement-là et les manipulations de ce gouvernement et les mensonges répétés et éhontés qui ont été faits par ce gouvernement, non, merci. Je pense qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron à la présidence de l'Union européenne, il doit appuyer un accord de paix qui doit se faire en Europe, parce que cette guerre-là à Kiev est en Europe, elle est sur le continent européen, mais nous avons fait des erreurs stratégiques. Pour autant, il faut condamner l'intervention de la Russie en même temps, mais rappeler le contexte géopolitique, et c'est très important, et ne pas avoir une vision comme ça bipolaire de façon unilatérale. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un défi pour Emmanuel Macron, il doit se saisir de cette crise pour montrer son leadership au niveau européen et essayer de unifier une voie politique et diplomatique de l'Union européenne. On voit que les Allemands sont en désaccord, Les États-Unis font pression sur Stream 2 et c'est inacceptable. Emmanuel Macron n'a pas eu de parole sur ça. Et donc, moi, j'attends que le président de la République, aujourd'hui, puisque hier, il y a eu, pas plus tard que jamais, une réunion à Bruxelles. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en va de ces, quelles sont les résolutions qui ont été votées. Rien. J'ai consulté les sites du Parlement, rien. Donc il va falloir maintenant quand même, au lieu de faire de la communication et de mettre un drapeau ukrainien, il va falloir quand même maintenant agir, puisque ce sont des gens, ce sont des civils qui en dernière instance meurent.
Allez, dans le métro. Messieurs, on retrouve le débat justement. Le débat continue, vous inquiétez pas, le débat continue ici même dans les informés. Le standard 01-53-48-3000, on vous attend. Le billet d'humeur, juste comme chaque vendredi, c'est avec Michel Taube, le patron de l'Opinion Internationale. C'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir Adil et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Eh bien, on vous écoute pour votre billet d'humeur, comme chaque vendredi à 19h30. Mon cher Michel Taube, là, avec l'angle comme Poutine, Vladimir Poutine et l'axe des élections présidentielles.
Ah oui, alors, sans vouloir être provocant, mais j'ai envie de vous dire un peu ce soir, Poutine vote Macron pour l'élection présidentielle. Parce qu'avec avec ce nouveau rebondissement, en fait, depuis 48 heures, on n'a plus de campagne électorale. Est-ce qu'on a entendu la moindre proposition d'un candidat à l'élection présidentielle? Ils sont tous focalisés sur le seul événement qui compte, et vous en parlez vous-même, et c'est normal, tout le monde en parle, moi j'en parle dans mon journal, la guerre qui a lieu actuellement en Ukraine. Mais Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, par la force des choses, sort grandi de cette campagne. Regardez ce qui s'est passé depuis 24 heures. Il a tenu une conférence de presse solennelle avec un drapeau ukrainien à côté du drapeau français, du drapeau européen. Il a reçu François Hollande ce matin, qui n'avait plus rencontré depuis des années. Il a reçu Nicolas Sarkozy. Bref, c'était l'union sacrée derrière les chefs d'État des présidents de la République que la France a eu depuis plus de 12 ans. Il a fait lire au Parlement un message solennel à la nation à travers les députés et les sénateurs. Bref, c'est un peu le chef de guerre ou celui derrière lequel l'ensemble de la nation se mène. Et c'est vrai que cette posture que l'actualité internationale lui donne, j'ai envie de dire, elle met finalement le non-candidat à l'élection présidentielle, qui sera candidat la semaine prochaine, sur une sorte de piédestal. Il a vraiment une baraka, Emmanuel Macron. Et j'ai envie de dire qu'avec cette actualité, d'une part, il n'y a plus de campagne électorale, on n'a plus qu'un seul candidat qui peut dire c'est le président de la République.
Oui.
Et on va le voir par exemple demain, il y a le salon de l'agriculture. Vous savez, le salon de l'agriculture, c'est le rendez-vous des candidats à l'élection présidentielle.
Exact.
Et demain, il va arpenter le salon de l'agriculture. Tous les agriculteurs vont lui dire, oulala, le blé ukrainien, le blé russe, l'augmentation du cours de matières premières, tout ça, ça va impacter notre pouvoir d'achat. Emmanuel Macron va en parler. Mais encore une fois, les propositions de l'élection présidentielle, l'avenir de l'agriculture, on ne va pas en parler. Donc moi, je voulais juste souligner le fait que cette actualité internationale terrible, tragique, la guerre et le retour sur le sol européen, malheureusement ou heureusement, sur les circonstances, profite à un seul candidat, et il s'appelle Emmanuel Macron.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire, et je vous la pose clairement de façon triviale, que les choses sont déjà pliées? Cette élection a déjà plié.
Alors, je ne vous ai pas entendu, cher Adil.
Non, je disais de façon triviale, est-ce que l'élection de cette campagne présidentielle n'est pas pliée?
Alors, tout le monde le pense, tout le monde le dit, vous avez tout à fait raison. Déjà, dans les sondages, Emmanuel Macron est crédité de autour de 25% des voix du premier tour. Et c'est vrai que de plus en plus s'installe exactement ce que vous venez de dire, l'idée que finalement, il n'y a pas de campagne électorale, que tout le monde convient qu'Emmanuel Macron, il est le seul qui arrive à faire la synthèse entre la gauche et la droite, et qu'il va certainement être réélu assez largement, quel que soit l'adversaire qu'il aura en face de lui, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, qui remonte fortement dans les sondages actuellement. Mais effectivement, c'est le climat qui s'installe. Dans un contexte de guerre internationale, où toute la nation se rassemble derrière son chef, eh bien oui, effectivement, on a l'impression qu'Emmanuel Macron reste aux commandes et que quelque part, cette élection présidentielle ne sera plus formalisée. Alors, ceci dit, restons quand même prudents. Il peut y avoir encore plein de choses, il peut y avoir des rebondissements, il peut y avoir plein de suspense jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'au premier tour le 10 avril prochain. Mais vous avez tout à fait raison, on a le sentiment qui s'installe, celui qui s'enclient. Et ça va avoir une conséquence très concrète, c'est que ça risque d'amener beaucoup de Français à s'abstenir d'aller voter. Et de ne pas aller voter. Ils vont se dire, oh ben, Emmanuel Macron, il est déjà élu d'avance, donc à quoi ça sert que j'aille voter? Et ben ça, ça peut avoir des conséquences et rebattre les cartes et peut-être provoquer des rebondissements au soir du premier tour. Mais quand même, vous avez tout à fait raison, on a l'impression que ce contexte international ne fait que renforcer cette position de domination d'Emmanuel Macron, alors même qu'il n'est pas encore candidat.
Michel Thauban, 10 secondes, est-ce que finalement, et beaucoup le pensent, ne faut-il pas repousser cette élection présidentielle?
Non, parce que le conflit qui se passe en Europe de l'Est, ça ne se passe pas en France. Donc on a besoin que la démocratie fonctionne. Vous savez, Poutine, il est en train d'essayer d'abattre une démocratie qui est celle de l'Ukraine. Il ne va pas quand même mettre à terre également la démocratie française, qui a un agenda, qui a des échéances. La semaine prochaine, Emmanuel Macron va se déclarer candidat parce qu'il a jusqu'au 4 mars pour être officiellement candidat. À partir du 5, la campagne officielle va commencer. Donc là, ça va aussi rabattre un peu les cartes. Et le 10 avril, les Français qui nous souhaitent et j'espère qu'ils seront très nombreux, iront voter. Et je pense qu'il faut que la démocratie fonctionne. C'est quand même une grande priorité pour un pays démocratique et aussi puissant que l'autre.
Merci mon cher Michel Thauban, qu'on retrouve chaque vendredi avec son billet d'humeur dans le Quoi de Neuf, 19h30. Il est le patron de l'opinion internationale, mais également éditorialiste. Merci Michel Thauban, un très bon week-end.
Merci.
À très bientôt, 19h37, avec un peu de retard. Nous allons marquer la dernière pause pub et on se retrouve juste après. On va parler de François Fillon qui est accusé d'être complice de Vladimir Poutine, justement après ses propos sur l'invasion russe. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et les 19h40, les informés, c'est avec Mehdi Jaziri, c'est avec Amit Triette. On va parler de François Fillon qui est accusé d'être complice de Vladimir Poutine après ses propos sur l'invasion russe. Messieurs, est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement démissionner? Parce que vous savez, il avait rejoint en décembre dernier un grand groupe russe, Sibur, qui avait déploré donc le refus des Occidentaux d'entendre des revendications de la Russie sur l'élargissement de l'OTAN. Alors, le Premier ministre, aujourd'hui, doit-il déposer sa démission? Est-ce qu'il doit se mettre en cohérence avec la position et le positionnement de la France? Amit Triette.
D'accord, oui. Donc, si je suis la logique, il doit être démissionné et toutes les entreprises françaises qui sont en Russie doivent démissionner aussi. Non?
Je pense. Dites-nous.
Moi, j'aimerais bien s'il démissionne dans ce cas-là et qu'on a une cohérence diplomatique. Dans ce cas-là, toutes les entreprises françaises, tous les Français qui sont résidents en Russie doivent démissionner de leur poste et revenir. Pourquoi on parle que Monsieur
Fillon? Ça s'appelle le mondialisme.
Parce qu'il a été Premier ministre. Excusez-moi, Monsieur Fillon, on voit bien que quand il était président de la République, il était Premier ministre et quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, il avait effectivement un rapport avec la Russie. D'ailleurs. D'ailleurs, la candidate Valérie Pécresse, qui est proche de François Fillon et qui est sur la ligne filloniste, même si elle est soutenue par des gens qui sont pro-zimouriens dans son clan, Ciotti et consort. Et je crois que Madame Pécresse parle russe, elle est russophone aussi, vous êtes au courant de ça.
Oui.
Hein? Donc quand elle avait rencontré la fameuse rencontre avec Poutine et Jacques Chirac, et je crois que dans ce cas-là, pourquoi on ne dit pas aussi à Madame Pécresse de démissionner ici de l'élection présidentielle, puisqu'elle est russophone?
Alors, donc, vous faisiez le parallèle, ouais. Certains auditeurs vous répondent, certains, évidemment, donc, les chefs d'entreprise, c'est des chefs d'entreprise. Là, on parle d'un ancien Premier ministre.
Mais c'est un ancien Premier ministre.
Ancien haut fonctionnaire d'État. Mais oui, vous avez fait le parallèle avec les chefs d'entreprise qui sont installés
attendez,
là-bas. Vous avez dit, ma fille démissionne aussi.
Attendez.
J'ai des messages d'auditeurs qui vous disent, à la différence.
Mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais attendez.
Un ancien haut fonctionnaire
d'État.
Je
suis d'accord avec lui. Mais combien y a-t-il de hauts fonctionnaires d'État qui passent dans le privé et qui travaillent avec des pays qui ne sont pas démocratiques, selon les standards européens? Je pense à des pays, je ne veux pas citer de pays ici, je ne veux pas de problème avec des pays, mais il y a plusieurs pays, notamment dans des régions pétrolières, des régions gazières,
des régions plus.
Effectivement de l'uranium.
N'en dites pas plus.
Sauf que là, François Fillon est un employé de Vladimir Poutine.
Mais excusez-moi, il y a des entreprises françaises qui sont effectivement actionnaires d'entreprises aujourd'hui en Afrique.
Employés de Vladimir Poutine.
Est-ce que ça pose un problème?
Poutine, c'est pas forcément dire que c'est l'ennemi de la France aujourd'hui. Il faut arrêter ses conneries.
Maroc Télécom, blablabla, etc. Et consorts, EDF, GDF.
Moi, j'ai une question juste.
Total. Ça aussi, il faut que tout ça démissionne dans ce cas-là. Il faut qu'on ait une cohérence.
Moi, j'ai une question. On est en guerre contre la Russie ou quoi, là? On est en guerre contre la Russie ou quoi, là? C'est quoi ce bordel? Non, mais je veux dire, on dirait qu'il est en train de collaborer avec l'ennemi. Le mec, c'est Pétain. Il faut arrêter, c'est Dieu aussi. Enfin, je veux dire.
Surveillez votre vocabulaire.
Non, mais il y a même pas de questions à avoir là-dessus. Enfin, c'est ridicule. Non, mais on n'est pas à la Seconde Guerre mondiale. François Fillon va collaborer avec Adolf Hitler. Enfin, c'est quoi? On n'est pas en guerre contre la Russie.
Ça vous choque pas?
Ça me choque pas, non.
De toute façon, on peut pas aller.
Et puis attendez, ça me choquerait aussi que Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il a fait avec avec la Libye. Enfin, je veux dire, il a continué à être président. Ça a été décrié deux secondes et puis c'est bon, on l'a laissé tranquille après. Mais je veux dire, faut arrêter. Enfin, là, le centre du problème, c'est pas ça. Là, c'est faire de la politique avec la souffrance des autres, avec la guerre, avec. Enfin, c'est ridicule. Franchement, moi, je trouve ça ridicule.
Nicolas Sarkozy est membre de conseil d'administration d'entreprise du CAC 40, à ce que je sache. Eux-mêmes qui sont actionnaires par le Qatar et d'autres pays. Non mais attendez, franchement.
Le mondialisme.
On se moque du monde. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, on va parler sérieusement, il faut aujourd'hui une voie diplomatique. C'est soit la force, la guerre totale, effectivement, et personne ne veut de guerre totale, pas les peuples en tout cas, ou soit c'est la table des négociations, c'est-à-dire la table diplomatique aujourd'hui. Vladimir Poutine a proposé une table à Minsk, en Biélorussie, de négociations avec le président ukrainien. Nous allons voir ce que ça va donner. Moi, je pense que c'est une erreur. Il faut que cette table de négociation soit dans un pays européen neutre. La Biélorussie n'est pas un pays neutre. C'est une dictature aujourd'hui qui a soutenu, etc., avec la crise migratoire. Souvenez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir ça. Il faut que la France propose, un, une table de négociation, deux, un changement de paradigme. Aujourd'hui, G7, G8. Souvenez-vous, il y a deux ans de ça, la Russie était intégrée au G8. Et on avait effectivement le président Macron avec le président Poutine qui avait discuté sur un rapprochement franco-russe, notamment contre l'axe Trump. On se souvient de ça. Et je crois qu'il va falloir aujourd'hui repenser le multilatéralisme. L'ONU ne fonctionne pas. On ne peut pas aujourd'hui gérer par un G20 tous les pays. L'Afrique n'est pas représentée dans le G20. Ça, c'est inadmissible. Il y a des continents comme l'Amérique latine qui n'est pas représentée. Donc, il va falloir aujourd'hui repenser ce multilatéralisme. Nous vivons dans un multilatéralisme. Et il faut calmer les tensions.
Puisqu'on sait de sécurité et tout pour
calmer les 01-53-48-3000. 01-53-48-3000, on va accueillir Ben Amar qui nous appelle de Paris. Bonsoir Ben Amar.
Ouais, bonsoir, les informés, ça va?
Très bien, très très bien. Merci, on vous écoute, mon cher Ben Amar.
Bah, moi, je voulais parler avec l'Ukraine, tout ça, mais bon, on n'en parle beaucoup, c'est vrai. Mais bon, après, on ne sait pas ce qui se cache derrière l'Ukraine.
Oui, bah oui.
Si Poutine est attaqué, c'est pas pour rien. Hein. Il n'est pas con, hein, je pense, on m'a vu. Je sais pas. Après. C'est malheureux pour les, c'est vrai, pour les civils, mais bon. Il faut voir qu'est-ce qu'ils veulent la Russie, c'est ça le problème.
Ben la Russie, ils veulent leurs intérêts, tout simplement.
Ils veulent l'Europe, peut-être, je ne sais pas. Après, peut-être ils veulent pas qu'ils se mettent en l'OTAN, en Ukraine, mais...
Bon. Eh bien, écoutez, justement, on est là, les informés tentent, en tout cas, de vous apporter tout l'éclairage. Merci, Ben Amar, de Paris. 01-53-48-3019h45. Il me reste un dernier sujet à traiter avec vous, messieurs. Je veux parler des présidentielles 2022 avec, justement, certains candidats qui sont rattrapés, vous savez quoi, par leur position sur Vladimir Poutine. Tiens, des candidats qui, jusqu'ici, se sont montrés parfois, vous savez, complaisants, hein, ça, je vous l'apprends pas, envers la Russie, notamment, on connaît celle de Marine Le Pen, mais également aussi Éric Zemmour. Eh bien, les choses remontent à la surface, tout doucement. Est-ce qu'il faut en parler à Mitch Riett?
Écoutez, je crois qu'Éric Zemmour, sur France 2, il avait dit que la Russie n'allait jamais attaquer effectivement l'Ukraine. Il s'est trompé. Je pense qu'Éric Zemmour a effectivement eu une analyse. Voilà, il n'a pas de connaissances en géopolitique. Malheureusement, il ne connaît pas les relations internationales. Il doit sortir de la France, des campagnes. Parce que je pense qu'il était dans sa campagne. Il doit un peu sortir, voyager le monde, discuter avec les gens, regarder d'autres civilisations. Je crois qu'il s'est trompé. Il a eu une attitude effectivement qui a été inacceptable vis-à-vis de Vladimir Poutine.
Oui.
En ce qui concerne Marine Le Pen, je pense qu'elle a condamné aujourd'hui. Elle a eu un Twitter en disant que il fallait condamner cette attaque-là, il fallait aller dans la voie des négociations, de la voie diplomatique. Il n'y a que ça tout aujourd'hui qui pourra fonctionner. Voilà, tout simplement.
Oui, mais je quand on parle de Marine Le Pen, qui est toujours bienveillante avec Vladimir Poutine, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, puisqu'elle a été reçue d'ailleurs à plusieurs reprises au Kremlin. Il y a une banque russe qui avait accordé, souvenez-vous,
oui.
En 2014, un prêt de 10 millions d'euros au Front National.
Non, mais je suis d'accord avec vous.
Que doit faire Marine Le Pen aujourd'hui? Que doit faire Marine Le Pen aujourd'hui?
Dans un contexte géopolitique, il y a eu le soutien de Marine Le Pen dans un contexte effectivement où Vladimir Poutine effectivement est toujours dirigeant de la Russie. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, et de façon honnête, il y a une unanimité, il y a une condamnation, unanime des dirigeants politiques aujourd'hui. Et effectivement, ce que disait Michel Taube, même si je ne rejoins pas toujours ce qu'il raconte, il y a un soutien unanime d'Emmanuel Macron, effectivement, en tant que président de la République. Et je crois que nous, Français, en tout cas, et je pense que Marine Le Pen, en tout cas, si elle, aujourd'hui, elle prétend diriger cette France-là, elle doit avant tout défendre les intérêts français, et non les intérêts
politique.
Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que Marine Le Pen, on peut parler de complaisance vis-à-vis de la Russie?
Oui, il y a une certaine complaisance, je dirais une certaine...
La question, elle est claire.
Moi, je dirais que c'est sur une certaine naïveté, pas de complaisance. Le mot complaisance est assez fort. J'utiliserai peut-être un terme de naïveté vis-à-vis de Poutine, mais je crois qu'elle n'est pas la seule, en réalité. Aujourd'hui, Poutine, quand il vous regarde, il vous scanne. Poutine est un homme d'expérience, c'est un chef d'État qui est là jusqu'en 2036.
Hein, c'est ça, il a changé.
Et qui réfléchit toujours comme un agent du KGB, finalement.
Voilà, donc, à un moment donné, quand il reçoit, par exemple, Emmanuel Macron, il se dit peut-être qu'il ne sera pas président. À quoi bon discuter avec ce monsieur? Donc, vous voyez.
On n'a pas entendu Mehdi Jaziri. Mehdi Jaziri, sur justement ces candidats qui sont entachés aujourd'hui par rattrapés par le positionnement de Vladimir Poutine et la Russie.
Bah, encore une fois, on n'est pas en guerre avec la Russie. Donc, qu'ils ont une certaine complaisance à une période.
Est-ce qu'ils doivent avoir un repositionnement?
Bah, en fait. Moi, je pense qu'il faut voir conflit par conflit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le conflit ukrainien qui est arrivé. La majeure partie de la population affiche son soutien envers le peuple ukrainien. Bien évidemment que les politiciens vont le faire. C'est une évidence politique. Je vois mal un candidat qui va dire « Ah non, en fait, Poutine a raison. C'est pas possible aujourd'hui. » C'est sûr et certain. Maintenant que certains ont eu à une période une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, bah écoutez, c'est simplement, moi c'est ce que j'expliquais à une certaine période, pour moi la politique française va devenir les mondialistes contre les souverainistes. Donc c'est sûr que les souverainistes vont être beaucoup plus proches de Vladimir Poutine que de Biden, ce qui est sûr et certain. Voilà, en fait on a petit à petit le reflet de la géopolitique qui s'installe dans la politique française. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point là mais moi c'est ce que je vois en tout cas. Donc oui, forcément, certains candidats, principalement ceux d'extrême droite, comme voilà Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ont été proches. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, à une période aussi, avait affiché quelquefois son soutien à Vladimir Poutine. Bon, lui, il est entre le souverainisme et une sorte de mondialisme bizarre. Donc oui, non, mais je pense que voilà, il y a même là-dessus en soi, il y a même pas de débat à avoir là-dessus. Le débat aujourd'hui, il se concentre sur quoi? Il se concentre sur qu'est-ce qu'on va faire pour régler
alors
ce souci-là.
Alors, voilà. J'ai une autre question.
J'aimerais souligner juste une chose.
Allez-y, parce que j'ai encore une question.
C'est que, il y a tout le temps et toujours en France, et je vais pas généraliser dans les médias, mais on essaye toujours de dire, est-ce que vous êtes pro-russe, condamnez monsieur Poutine, pourquoi il n'y a pas de question vis-à-vis des États-Unis?
Regardez qui est-ce qui dirige les
médias. Mais moi, je me pose des questions aujourd'hui. Pourquoi la France aussi, depuis Nicolas Sarkozy, a une vision atlantiste des affaires étrangères aujourd'hui? Elle est alignée vis-à-vis des États-Unis.
Alors finalement, est-ce que c'est pas le bal des hypocrites justement de nos candidats? Exactement.
C'est le bloc de l'Ouest, tout simplement. On est dans le bloc de l'Ouest.
Exactement. Vous confirmez?
Non, attendez.
N'ayons pas peur des mots. On est dans le bloc de l'Ouest aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait des petits parasites qui arrivent.
On s'entend pas là. Vous êtes tous à parler, s'il vous plaît.
Je pense que la situation. Je ne pense pas d'ailleurs. La situation est assez grave pour aujourd'hui, comme ça, jeter d'un trait les problématiques géopolitiques qui se passent aujourd'hui en Ukraine. Je crois qu'aujourd'hui, si on prétend, et que tous les candidats, je dirais de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, si ces candidats et candidates prétendent à la fonction suprême, qui est la fonction présidentielle, ils doivent aujourd'hui avoir une seule idée, une seule orientation, une seule pensée. C'est celle de la défense des intérêts français. C'est ce qui compte pour nous, c'est-à-dire ni pro-américain, ni pro-russe.
Donc une c'est Marine Le Pen qui parle comme ça?
Non, Jean-Luc Mélenchon aussi également. Une politique, de non-alignement.
C'est la politique gaulliste.
Si aujourd'hui Emmanuel Macron, le président de la République, se revendique du gaullisme, je ne sais pas de quel gaullisme il se revendique, c'est un gaullisme je ne sais pas d'où. Si les présidents aujourd'hui, les candidats à la présidence, se revendiquent du gaullisme, ils doivent respecter cette doctrine française.
Pour répondre à la question, le bal des hypocrites des candidats
du
à cette élection, est-ce que c'est finalement ça?
Franchement, je pense pas que le fait de s'aligner avec le peuple français, c'est de l'hypocrisie. Je pense que c'est de la politique. Mais pour rejoindre ce que dit Monsieur Amine, j'ai du mal à prononcer.
Shriyat,
excusez-moi pour le famille, j'ai du mal. Mais moi, je vais vous dire sincèrement, je pense que Emmanuel Macron n'est pas du tout un gaulliste. Je sais pas d'où il sort ça. Franchement, c'est le pantin de Joe Biden. C'est un mondialiste. Un petit mondialiste, un petit toutou des banques, des entreprises. C'est un pantin. C'est un pantin de Biden.
Coucou
Biden, je suis là pour te servir.
Il répond.
Emmanuel Macron a quand même adopté des initiatives diplomatiques au sein de l'Union européenne, exactement, en tant que de présidence.
Oui.
Il a effectivement développé...
Qui serve qui, en vérité?
Il a développé un programme militaire aujourd'hui, notamment sur la cybersécurité. Il y a eu des fonds d'investissement, 14 milliards. Il y a eu la technopole cybersécurité. Il y a des critiques vis-à-vis de la politique étrangère américaine que le président Emmanuel Macron a utilisé, a dit de façon claire.
Mais elle reste minime vis-à-vis de ce qu'il fait pour les Américains.
Attendez, sur la question des sous-marins australiens, il y a eu des critiques. Il y a eu même... Historiquement, on a rappelé notre ambassadeur français. Je crois qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne fait pas suffisamment, pour être juste. Je pense
merci, monsieur.
C'est une occasion en or pour lui en tant que président.
Merci, monsieur.
Je pense que c'est plus la coupe aux Américains qu'il ne fait autre chose.
Merci à Emmanuel. Merci à la réalisation, à Yanis.
Il s'est saisi de cette occasion, cher Emmanuel.
Merci à Yanis, à la réalisation. Merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Time Sports, c'est de 20h à 21h. Je vous retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net.